have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Puis l'Amérique, qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bonsoir à tous, Morgane Guerrier en votre compagnie. Bienvenue dans l'Amérique et vous. Ce soir, nous faisons le point sur les enjeux du sommet du G7 qui débute aujourd'hui au Canada. Et c'est dans un contexte tendu que les dirigeants du groupe des 7 se retrouvent au Québec. Les taxes américaines sur l'importation d'acier et d'aluminium indignent les alliés des États-Unis. Les autres membres du G7 ont-ils des moyens de riposter? Nous attendons vos questions. Pour participer, appelez le 001-202-205-2633 et pour ceux qui ont laissé leur numéro sur la page Facebook de VOA Afrique, nous commençons dès maintenant à vous appeler. Notre experte ce soir, c'est Irène Finel-Honigman. Vous enseignez le secteur bancaire international à Columbia University et vous avez été conseillère en politique financière au département américain du commerce. C'était durant l'administration Clinton. Merci d'être avec nous.
Merci madame, merci.
Alors, Donald Trump a augmenté les taxes américaines sur l'importation d'acier et d'aluminium. Il explique agir ainsi en raison du déficit commercial. Alors faisons un peu de pédagogie. Expliquez ce qu'est le déficit commercial.
Le déficit commercial, c'est-à-dire que sur le libre-échange import-export, est-ce qu'il y a en effet un déséquilibre? D'abord, le problème qui se pose ici, que je crois est même plus important que les concepts économiques ou chiffriques, c'est que même s'il y a en effet ce qu'on appelle trade deficit, oui, des déficits de commerce sur le commerce extérieur, est-ce que ceci est nécessairement un négatif? Pas nécessairement, ça fait plus ou moins partie des transactions et des interactions entre les grandes puissances, surtout aujourd'hui vis-à-vis le commerce mondial. Et deuxièmement, ce qui est même plus important de nos jours, est-ce que ceci devrait être la cause de ce qu'on appelle maintenant une guerre commerciale ou des relations adversarielles? Certainement pas. Et c'est malheureusement là où nous nous trouvons, qu'il a fait vraiment, il a tellement ciblé, tellement focalisé sur tout un tas de chiffres dont en effet beaucoup d'économistes sont un peu douteux, mais même si c'est parfaitement correct que les États-Unis souffrent déficit assez grave vis-à-vis le Mexique ou le Canada ou l'Union européenne, mais est-ce que ceci vraiment compte pourtant? Et même si, sûrement, ce n'est pas une cause pour une crise politique.
Alors, on va revenir sur la guerre commerciale peut-être un peu plus tard. Mais enfin, quand même, on peut comprendre. Est-ce que vous pouvez expliquer les raisons en général pour lesquelles un État n'a pas trop envie d'avoir un déficit commercial? Ça a quand même un impact sur l'économie d'un État.
Bon, alors, naturellement, si un État se trouve vraiment dans une situation vraiment très subordonnée ou très inférieure à un autre État, avec des déséquilibres très graves, d'abord, ça dépend énormément dans quelle industrie, dans quel secteur. Est-ce que ceci est, pour ainsi dire, sur toute la gamme des produits industriels, produits commerciaux, produits des biens, etc.? Bon, ça c'est tout à fait différent. Normalement, ce n'est pas le cas entre les grandes puissances. La chose la plus importante qui a eu lieu depuis, en effet, 93, avec les accords pour l'Organisation du commerce mondial, c'était qu'on ait enlevé tous ces tarifs qui ont enlevé, pour ainsi dire, toutes ces impositions supplémentaires sur libre-échange de tous les produits à travers presque tous les secteurs. Mais naturellement, ça c'est d'abord c'est quelque chose qu'on veut naturellement ne pas réinstaurer, mais naturellement entre pays, ceci oui, ça peut créer bien sûr non seulement des problèmes économiques avec des répercussions, mais de même ça crée naturellement des tensions politiques. Donc ceci n'a plus lieu. Ce qui est très très pénible dans cette situation, c'est qu'on semble avoir renouvelé des crises, des conflits qui ont en effet été complètement résolus il y a plus de 20 ans.
Oui, mais Donald Trump y reproche justement à ses partenaires du G7 d'imposer aux États-Unis des taxes importantes.
Bon, alors pour beaucoup des produits, il y a encore des différends. Il y a des taxes, il y a certaines taxes, etc. Mais en somme, je dois vous dire que jusqu'à ceci, jusqu'à qu'il ait, pour ainsi dire, réveillé toute cette histoire, on n'y pensait vraiment pas. Oui, il y avait des fois où il fallait absolument, surtout avec l'Organisation du commerce international, où tel et tel pays pouvait porter plainte. Et à ce moment, ce qui est encore beaucoup plus important, la plupart des plaintes sur les tarifs, sur imposition supplémentaire, sur déséquilibre du commerce et d'échange, c'est sur la Chine. Et c'est là, en effet, où le maximum des plaintes à l'Organisation mondiale à ce moment ont eu lieu contre la Chine. Et ce qui est tout à fait bizarre, c'est cette fois-ci, Trump s'attaque aux alliés et ne s'attaque même pas à la Chine.
Mmh. Alors, on va interrompre un tout petit peu pour laisser la parole à un de nos auditeurs. Au bout du fil, on a Alphonse Boaki de la RDC. Ah non, on a perdu Alphonse. Donc on a Diallo Tierno qui est à Conakry. Bonsoir Diallo.
Oui, bonsoir Morgane, bonsoir à votre invité, désolé, l'ensemble des auditeurs de VOA.
Alors, depuis la Guinée, hein, comment est-ce que vous percevez ces tensions entre les États-Unis et les autres puissances économiques mondiales concernant cette affaire de déficit du commerce?
Vraiment, c'est quelque chose qui inquiète tous les observateurs, parce que si les membres du G7 n'arrivent pas à s'entendre, parce que ce sont vraiment des grands pays qui sont très puissants économiquement, les plus puissants au monde, puis M. Trump, comme l'habitude, arrive à les provoquer sans consulter son entourage, parce que depuis qu'il est aux affaires, il fait tout ce qu'il veut, parce que oui, ces décisions, on peut dire qu'il n'y a pas eu de consultation à l'interne parmi ces conseils, sinon les conseils là auraient des conseils de ne pas les prendre de telles décisions. C'est parce que c'est pas du tout juste. C'est quelque chose qui va vraiment pousser les autres pays, comme c'est le cas, de prendre des décisions qui ne seraient pas du tout bonnes, non seulement pour les États-Unis, mais aussi pour les autres pays alliés. Parce qu'ils ne vont pas accepter qu'un seul pays les dicte les chemins qu'ils vont emprunter. Ils sont stiffs. Les États-Unis seuls ne peuvent pas les imposer ce qu'ils veulent. Parce que, vu la situation économique actuellement à travers le monde, ce n'est pas le bon moment, à mon avis. Pour une fois encore, M. Trump a raté sa sortie parce qu'il ne fallait pas. Les six autres vont résister. Et puis encore, les conséquences vont perdurer. C'est à lui de reculer parce que les États-Unis ne pourront pas supporter les pressions des autres États. Et aussi les pressions internes qui viendra des entreprises américaines, qui viendra pousser les choses avec les élites américaines qui vont venir vers Donald Trump. Il ne pourra pas du tout résister longtemps face à cette situation. J'aimerais aussi poser une question à votre invité.
Oui.
À la longue, quelles seront les conséquences si les autres pays arrivent, par contre, de sanctionner aussi les États-Unis dans les autres domaines? Quelles seront les conséquences économiques? Parce que les États-Unis n'est pas aussi plus fort que tous les autres États. Merci. Merci. Très bientôt.
De rien. Alors Irène, vous avez entendu, hein, si jamais les autres pays du G7 venaient à eux aussi...
Aux États-Unis vis-à-vis la politique domestique, dans une situation très conflictuelle, entre ceux dans le cabinet du président Trump, par exemple le secrétaire, le ministre de la Finance, Mnuchin, qui est tout à fait contre ces tarifs, qui a tâché d'un tout petit peu atténuer la situation, et par exemple le ministre du Commerce, Wilbur Ross, qui est absolument acharné, on a l'impression, contre tout accord de libre-échange et qui exige qu'il revienne vers un genre de bilatéralisme. Donc déjà, ce conflit se voit déjà représenté au gouvernement américain même, et vous avez tout à fait raison que nous allons voir très vite des répercussions assez graves surtout vis-à-vis dans les États. Et je veux juste digresser pour un instant. Nous allons vers une série d'élections qui s'appelle les midterms au mois de novembre. Donc les représentants de tous les États doivent faire très bien attention de représenter leurs intérêts spécifiques. Les tarifs tout d'un coup sur des produits agricoles, sur des produits de bois, sur des produits acier, aluminium, etc., vont directement s'attaquer sur des secteurs ruraux, secteurs agricoles, secteurs industriels, où en effet ce sont les États qui ont soutenu Trump le plus. Alors on est donc dans une tout à fait bizarre situation. Moi je pense personnellement que dans les prochains quelques mois, il est tout à fait possible que l'appui, pour ainsi dire, ou plus ou moins le poids de l'opinion publique contre ces tarifs pourront peut-être forcer son cabinet et d'une façon ou d'une autre le persuader un tout petit peu de reculer. La situation se complique de même avec l'accord sur le libre-échange nord-américain, le NAFTA, où en effet avec le Mexique et le Canada, en tâchant d'imposer des tarifs, il est en train à ce moment de détruire, de démanteler les structures de base de cet accord qui est absolument crucial au commerce avec le Canada, avec le Mexique. Vis-à-vis de l'Union européenne, le problème qui se pose, ce n'est pas seulement l'Union européenne, mais ce sont de même les ramifications sur tous les pays, y compris bien sûr en Afrique, dans les pays bien moins privilégiés, qui ont vraiment besoin qu'il y ait d'abord des messages tout à fait clairs vis-à-vis la politique commerciale des très grandes puissances, et de même qui peuvent à leur tour souffrir des répercussions si en effet on commence à avoir constamment des augmentations dramatiques des tarifs sur les différents produits. Donc ce sont des problèmes donc domestiques, ce sont des problèmes internationaux, mais ce sont des façons beaucoup plus profondes, des problèmes qui très très vite, lorsque l'Union européenne, le Canada et le Mexique commencent à riposter et pour ainsi dire d'agir directement contre les décisions du président Trump, ce qui vient déjà d'arriver ce matin. Le Mexique a déjà annoncé 20% des tarifs d'augmentation sur le porc, sur tout un tas d'autres produits. Le Canada a déclaré tout à fait net qu'il ne va accepter aucun accord avec NAFTA avec ces conditions en place. Donc, à ce moment, je pense que ceci pourrait devenir très dramatique, même dans les prochains quelques mois.
Mais est-ce que vraiment les pays du G7 peuvent se permettre de claquer la porte comme ça? Est-ce qu'ils en ont les moyens? Est-ce que ce n'est pas juste de la rhétorique?
Je crois que c'est un peu une combinaison des deux. Totalement différent que où on était même en 92 en 93, lorsqu'il y avait en effet des contacts et des relations souvent assez adversariales entre Mitterrand à ce moment et en effet le tout jeune président Clinton au début des négociations du GATT et du WTO, où en effet, oui, en Europe c'était plutôt rhétorique et pourtant l'Europe a réussi d'avoir des concessions très importantes, surtout au sujet des produits intellectuels et culturels, des exemptions, etc. Donc, à ce moment, les États-Unis, oui, ils sont une immense puissance, mais ils ne sont plus nécessairement la seule puissance hégémonique. Il faut de même se rappeler que le commerce extérieur, import et export, monte, donne effet, plus ou moins 600 milliards de dollars par an entre les États-Unis et l'Union européenne. L'Union européenne est le premier partenaire commercial pour les États-Unis. Ce n'est pas la Chine. Ce ne sont pas les autres pays qui sont pays émergents. C'est en effet l'Union européenne. Ensuite, le Canada, ensuite le Mexique. Donc, il y a une interdépendance, je pense, beaucoup plus grande. À la longue, il y a beaucoup de rhétorique, naturellement. Comme Macron a déjà déclaré dans sa toute petite, courte première réunion avec Trump à Charlevoix au sommet, il s'agit qu'il continue d'avoir un dialogue, continue d'avoir des discussions. Donc, ceci n'est pas du tout figé. Mais je pense que et l'Europe, l'Union européenne et le Canada même sont parfaitement capables de rendre les choses relativement pénibles pour les États-Unis à court terme.
Alors, on va prendre maintenant un autre auditeur. On a Yao Marcelin qui est à Abidjan, Côte d'Ivoire. Bonsoir Yao.
Bonsoir Morgane et bonsoir à vous. À tous.
Alors, on attend votre commentaire ou votre question, comme vous voulez.
Bon, j'ai juste une question à votre fait. Je voudrais savoir les raisons essentielles qui ont motivé le président Trump à prendre de telles mesures. La deuxième question, est-ce que ces mesures-là participent vraiment à une diplomatie économique au sein même des membres du G7? Voilà, ce sont les deux questions que j'avais à poser à votre fait.
Alors Irène, je reprends, hein, au cas où vous n'avez pas bien entendu, quelles sont les raisons qui ont motivé Trump à prendre ces mesures?
Bon, alors, de même, monsieur, je vous remercie pour cette question. Je pense malheureusement que c'était des raisons non économiques. Il faut se rappeler que le président Trump, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il est arrivé avec toute une série de slogans. Et parmi les slogans, c'était d'entièrement soit laisser tomber ou renégocier NAFTA, donc l'accord de l'Amérique du Nord, et en même temps d'éliminer trade deficit, en déclarant que nos partenaires nous ont terriblement maltraités, etc. Ce qui est très pénible souvent, c'est qu'on suit toute la politique de Trump sur de nombreux sujets. On a souvent l'impression qu'il s'agit simplement de pouvoir dire à son électorat, eh bien, voyez, en effet, je vous ai donné un slogan et maintenant j'ai traduit ce slogan en politique. Ce qui est absolument absurde. Ce qui est déjà le cas, c'est chaque fois qu'il annonce tel et tel chiffre, chaque fois qu'il annonce tel et tel résultat, c'est pour ainsi dire tout de suite contredit par des économistes, par des recherches, par des études. Donc, à ce moment, malheureusement, par sa personnalité, lorsqu'il déclare quelque chose, il faut que ça ait lieu. Nous sommes à ce moment donc dans une situation où il s'agit plutôt problème du président même et problème de la réalité. Je crois que Macron vraiment est absolument brillant en tâchant un tout petit peu de naviguer entre ce que Trump semble dire, ce que Trump semble penser qu'il doit déclarer et fin de compte ce qui aura ou n'aura pas lieu. S'il a maintenant véritablement refusé de reculer, ce qui peut être le cas, on n'est pas encore 100% sûr, hein, c'est ça aussi la situation, il va maintenant en Corée du Nord, à Singapour, pour ce sommet crucial avec Kim, avec la Corée du Nord. Ça c'est naturellement son premier point, ça c'est normal. Mais dès son retour, est-ce qu'il va recalculer? Est-ce qu'il y aura encore des changements? Est-ce qu'on est encore comme le conseiller économique Larry Kudlow semble nous dire chaque fois, on est encore plus ou moins en négociation, on n'est pas dans une guerre commerciale. Donc il faut un tout petit peu voir. Malheureusement, comme je vous dis, les motivations sont surtout plutôt pures, slogan politique psychologique, pour qu'il se déclare très fort et puissant,
oui, plutôt mais, que véritablement des causes. Permettez-moi de vous couper, hein. Vous dites que c'est purement politique, mais enfin, il n'est pas le seul leader au monde à estimer que en augmentant les taxes sur les importations, il protège l'industrie de son pays. Il y a quand même une logique derrière cela.
Une logique, mais c'est une logique dans un sens qui est un peu démodée de nos jours. Parce que finalement, oui, il y a naturellement des nombreux pays, surtout des pays émergents, et sûrement le cas en Chine, où il y a en effet des immenses secteurs industriels et commerciaux qui restent véritablement fermés, qui restent véritablement inaccessibles. Donc, ceci aujourd'hui, pour les grandes puissances, ça n'a aucun sens. Parce que vis-à-vis, non seulement du point de vue échange des produits, mais vis-à-vis la signification beaucoup plus vaste de globalisation, c'est-à-dire interdépendance des emplois. Combien d'entreprises européennes y a-t-il aux États-Unis? Des milliers. Combien d'entreprises américaines y a-t-il en Europe? De même avec le Canada et le Mexique, malgré toutes les difficultés. Donc, à ce moment, est-ce qu'on est en train de mettre, pour ainsi dire, en danger ou de même mettre en question tout un tas de facteurs qui vont bien au-delà purement du commerce?
Alors le président menace de prendre encore plus de mesures si jamais les Européens tentaient eux aussi de mettre des barrières douanières. Qu'est-ce que ça pourra avoir comme impact sur l'Europe ?
Alors, bon, je crois que c'est là encore que d'abord, à ce moment même, ça crée énormément de confusion. Parce que si ce qui est arrivé, il faut se rappeler, la première déclaration de ces tarifs a eu lieu le 8 mars. À ce moment, au bout de 24 heures, il déclare qu'il fera des exemptions. Bon, le 23, tout d'un coup, le 23 mars, il aurait dû prendre une décision tout à fait nette sur l'Union européenne, etc., sur le Japon, etc., il ne le fait pas. Donc, un délai supplémentaire jusqu'au 1er juin. Au 1er juin, tout d'un coup, il déclare non, absolument, il va commencer à imposer les tarifs sur l'acier et l'aluminium. Donc, le problème maintenant est, est-ce que ces tarifs auront lieu de façon encore au moins un tout petit peu jugée, calibrée, etc. On n'est pas du tout sûr. Quel sera l'impact, par exemple, le pilier à ce moment qui probablement aura immédiatement des réactions très fortes, naturellement c'est l'Allemagne, vis-à-vis tous les imports des voitures, vis-à-vis, en effet, grosse industrie, etc., lourde industrie. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qu'on est, on n'est vraiment pas du tout sûr. Il y a maintenant un genre de sentiment, d'abord, oui, genre presque de dégoût vis-à-vis toute cette méthodologie, mais il y a de même une confusion totale. On ne sait pas vraiment sur quel produit est-ce que l'Union européenne s'est déjà déclarée de façon beaucoup plus nette, qu'il y aura certains produits très précis sur lesquels ils vont en effet faire les répercussions contre les mesures américaines. Du côté américain, c'est pas tout à fait clair.
Alors à l'inverse, justement, hein, les mesures que pourrait prendre l'Europe contre les États-Unis, qu'est-ce que ça pourrait avoir comme impact sur les États-Unis ?
Ah, alors là, comme j'ai mentionné à votre premier interlocuteur, pas les mesures prises par l'Europe, comme les mesures prises par le Canada ou par le Mexique, pourraient avoir un impact direct sur des États qui sont en grande partie soit États agricoles, soit État de petite et moyenne industrie, soit par exemple l'industrie des biens de papier, l'industrie de bois, industrie textile, c'est-à-dire il y a des masses des secteurs industriels qui d'une façon ou d'une autre, non seulement au très haut niveau, pas du tout, mais plutôt au niveau des fermes, au niveau des communautés agricoles, au niveau des SME, puis des moyennes entreprises, ils pourraient commencer à avoir un impact et en plus, du point de vue inflation. Parce qu'en effet, est-ce que tout d'un coup, des produits quotidiens seront plus chers cet été ?
Mais alors, si, l'Europe prend des mesures sur des produits similaires, ça devra avoir des répercussions similaires en Europe.
Oui, il est possible, encore une fois, je ne suis pas tout à fait sûre exactement quel secteur. Je pense à ce moment, ce qui est intéressant, c'est du point de vue de l'Europe, d'abord, oui, tout le monde à ce moment est d'accord, les grandes entreprises, etc., qu'il faut naturellement que l'Europe se déclare en position très forte vis-à-vis ce que Trump exige, mais en réalité, on a l'impression que au niveau mondial, au niveau global, surtout pour les grandes entreprises internationales qui ont à leur tour des masses de contacts à travers l'économie de tout un pays, il y a vraiment un sentiment qu'on ne veut pas de cette tarif et on ne veut pas cette situation continuer. Donc là, il faut voir, à ce moment, je dois dire, on est en impasse.
Alors l'Union européenne, très rapidement, a déposé une plainte contre les États-Unis devant l'OMC.
Oui.
Est-ce que ça a des chances d'avoir gain de cause ? Est-ce que l'Union a des chances d'avoir gain de cause ?
Ça, il est possible. Naturellement, lorsqu'on commence les plaintes, le Mexique vient de poster exactement une plainte de même. Je pense que le Canada le fera. Donc, à ce moment, difficile à savoir. Ceci peut prendre relativement assez longtemps. Mais le fait même qu'on se trouve dans cette situation, je dois dire, commence déjà à avoir beaucoup de pression dans les congrès américains.
Merci.
Où déjà aujourd'hui,
Irène,
on vient de voir un des sénateurs, sénateur
Irène, Paul, malheureusement, ça y est, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup pour votre analyse. Merci à tous nos auditeurs. À la production, c'était Sims Loumami, Morgane Guiriec à la présentation. À bientôt.